I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jordan Fuentes. Réalisation Thomas Bouff. Autour de moi ce soir, Sophie Rosemont, Hugo Cassavetti et Joseph Gost pour parler ensemble de En amont d'Alain Bashung et de Yon de Bill Ryder Jones. Lucille Como est également présente pour un petit salon sur le thème Aller au concert de son idole. Trois petits points. Le coup de cœur de Joseph Gost sera consacré. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va dire que c'est l'ensemble de Midori Takada.
Tout à fait.
Je vous laisserai dire le nom, Joseph.
Hein. Essayez de vous m'entraîner d'ici là.
Bon. Suivez-nous, vous comprendrez pourquoi. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour découvrir le musée de la romanité à Nîmes. Nous ouvrons cette dispute avec En amont d'Alain Bashung, sorti chez Barclay. Pour tout autre que Bashung, la circonspection serait de mise. Un album posthume créé à partir de maquettes. Alors d'une part, c'est Edith Fambuena qui a réalisé cet album. Elle qui fut une collaboratrice précieuse sur Fantasy militaire, d'album qui date déjà il y a 20 ans. Et puis d'autre part, je suis d'une mauvaise foi totale dès lors qu'il s'agit de Bashung. Donc reste quand même resté à découvrir le disque. Écoutons le morceau qui clôt l'album, Nos âmes à l'abri.
Marcher tout l'hiver dans la poudreuse jusqu'à la maison fleurie. Sous les montgolfières, nos vies heureuses. Que demander au Seigneur? On a fait de nos mains la pluie et le beau temps, un salon, un jardin, l'amour des paravents, pour mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. Des vues imprenables tombées du ciel et nos regards s'attendrissent. Le temps d'une escale goûtée au miel d'un tout nouveau précipice. Que nos pas dans la neige nous redonnent la grâce, l'illusion d'un cortège, le parfum à la glace, de mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri. mmh. la douceur tombera comme une coulée de plomb. On se relèvera la nuit sur le balcon pour mettre nos âmes à l'abri. Mettre nos âmes à l'abri.
Voilà, c'est la 11e et dernière plage de cet album En Amont, Alain Bachung, sorti chez Barclay. Sophie Rosemont.
Eh bien, malgré la grande méfiance que j'ai envers les albums posthumes...
Pas toucher le micro comme ça, il faut prendre le... Alors regardez, vous prenez le... Parce qu'on entend tout à la radio. Vous prenez cette partie-là et vous soulevez légèrement pour que ce soit à hauteur de votre...
Voilà, c'est ce qui arrive quand on ne s'occupe pas de son micro et qu'on préfère discuter pendant le...
Ben voilà, c'est très mal. Mais comme ça, tout est clair.
J'ai été dissipé, excusez-moi Arnaud.
Alors, Alain Bachung.
Donc, malgré la méfiance que j'ai envers les albums posthumes, disais-je, moi, j'aime beaucoup ce disque que non seulement je trouve réussi, mais que je trouve plus réussi que Bleu Pétrole. Parce qu'il retourne peut-être vers une énergie, une espèce de son abrupt qui n'existait pas sur cet album, qui pour moi ressemblait pas forcément à ce que pouvait faire Alain Bachung de mieux. Ensuite, j'aime beaucoup le principe que ce soit deux femmes qui aient confectionné, on va dire, cet album. Donc, Chloé Mons, la veuve d'Alain Bachung, à qui il a dit avant de partir qu'il fallait qu'elle s'occupe de pas mal de choses après son départ, dont acte. Elle a mis du temps, le temps de digérer un deuil. Elle s'est retrouvée face à pas mal de cartons, de caisses, et elle a sorti une vingtaine de chansons. Donc là, 11 en sont restées.
11, ouais.
Et ensuite, la réalisation a été confiée effectivement à cette merveilleuse Edith Fambuena, qui là montre à la fois son talent de réalisatrice, donc obéissant à ce son assez viscéral, ses guitares très sous influence Alan Vega, Johnny Marr, des influences qu'elle partageait, des références qu'elle partageait avec Alain Bachung, qu'ils écoutaient ensemble pendant des heures, et aussi son talent de guitariste tout de même, dont on parle pas assez. C'est quand même une des meilleures guitaristes françaises de sa génération. Et donc voilà, c'est confectionné avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Il y a rien d'illégitime dedans. Certes, quelques morceaux, surtout vers la fin, hormis ce titre de cette conclusion que je trouve assez belle, et d'ailleurs qui est assez étonnant parce qu'il y a des chœurs. C'était quand même un petit peu culotté de doser les chœurs sur une chanson de Bachung, et je trouve que c'est assez parfait. D'ailleurs, ce sont des chœurs masculins. Mais le début de l'album, je trouve qu'il est très beau, immortel et très beau. Et même les salines, écrite et réalisée par Raphaël, m'a agréablement surprise.
D'accord, on voit le sous-texte déjà.
Non mais, n'étant pas, je n'ai rien contre Raphaël, mais je ne suis pas non plus une grande fan, mais je trouve que c'est un morceau vraiment magnifique. Le morceau écrit par Daniel Darc aussi, La Marie des Roses, enfin vraiment, c'est un album à écouter, et même s'il y a des moments où les morceaux sont un peu plus... Enfin, la voix est un petit peu plus faible... Vraiment, on est dans les mélodies,
on est
dans
quelque chose qui donne. On le rappelle, c'est pas une voix de studio d'enregistrement pour un produit finalisé.
Et en même temps, il a chanté sur ses maquettes comme il voulait chanter ses chansons, sans doute.
Bon, une maquette reste une maquette.
Après, il y avait un hors-champ à interpréter, ce qu'Edith Fambuena a fait, avec les risques que ça en comporte. Mais bon, apparemment, il a visité Edith dans son studio comme un fantôme. Voilà, on ne sait pas jusqu'où vont les revenants, mais il a quand même participé à sa manière à cet album.
Premier regard de Joseph Ghost sur cet album posthume d'Alain Bachung.
Oui, plusieurs choses. D'abord, D'abord, ça pose vraiment. Ça joue beaucoup avec notre mémoire, je trouve. Ça joue beaucoup avec notre mémoire de qui était Bachung, de où il en était arrivé. Puisque j'ai l'impression que ça ne prend pas le Bachung là où il était arrivé à la fin, mais que ça explore d'autres choses. Ça explore peut-être d'ailleurs plusieurs Bachung. Parce que l'album se. J'ai l'impression que l'album, comme ça, évolue selon une séquence qui va de choses assez directes, assez simples, à ce qu'on a entendu, qui est quand même assez atypique par rapport à tout le reste, où on est dans un peu vers une espèce d'abstraction que Bachung essaie d'atteindre vers la fin. Donc ça joue beaucoup avec ça. Ça joue beaucoup aussi avec avec ce qu'il était comme interprète. Et moi, à aucun moment, je me suis dit, tiens, ce sont des voix de maquettes, ou ce sont des maquettes, ou ce sont des choses qui sont pas abouties, ou ce sont des choses qui ont été faites maintenant, ou a posteriori, etc. C'est juste que sa présence, sa voix, fait que, d'un coup, on est pris par ce qu'il raconte. Et ce qui est étonnant, c'est que les textes, effectivement, sont faits par plusieurs auteurs différents, et ça peut constituer un petit panorama de la chanson française. Mais c'est surtout qu'il se les approprie tellement qu'on est à chaque fois surpris par sa façon d'amener le texte. Même finalement, il y a certains textes qui sont évidemment plus faibles que d'autres, mais même lorsqu'il est en train de chanter des choses qui sont d'une extrême banalité, comme notamment, je crois, le troisième morceau, ben en fait, il le fait et il accompagne tellement l'audition de celui qui est à l'autre bout, que ça me prend vraiment entièrement. Ensuite, j'ai l'impression que c'est un disque qui joue aussi dans sa construction. Alors là, pour le coup, c'est pas quelque chose que Bachung a voulu, mais on a quand même l'impression qu'il y a un geste, comme ça, peut-être un geste de fantôme, en tout cas, il y a un geste. Ça joue beaucoup avec la mémoire d'une vie. C'est-à-dire que les cinq premiers morceaux ont l'air de raconter, comme ça, par bout découpé, une histoire d'amour, ou en tout cas un rapport au féminin ou à la femme, ou un rapport de couple. Et après, ça dérive vers quelque chose de beaucoup plus macabre, qui est davantage dans la confession de quelqu'un qui est en train de mourir, jusqu'à cette fin qui effectivement a quelque chose d'un peu plus spectral. Donc c'est moi je trouve que c'est un disque qui est assez fidèle évidemment à celui qui le chante, mais surtout un disque assez beau et assez contemporain. Donc je m'y suis beaucoup senti, comment dire, ému très souvent.
Hugo Cassavetti,
oui, bon, finir sur ton table. Dire sur le dernier mot, ce qui est plutôt étonnant, on va dire, mais c'est peut-être l'œuvre d'Edith Van Buena, c'est que ce disque fait de, on ne sait pas si c'est des rebuts, en tout cas des morceaux laissés de côté, possède, avec des morceaux plus ou moins forts et tout, beaucoup plus de cohérence que Bleu Pétrole, qui surprenait, et que, effectivement, cette voix un peu en dessous, effectivement, on a l'impression de toucher, d'être plus proche de Bachung, que, alors moi, bon, il y avait un morceau qui écrasait tout sur Bleu Pétrole, c'était comme un Lego, il y en a deux ou trois autres, un menti, mais c'est un album, pour moi, très inégal.
Ouais.
Et là, on trouve un album qui pourrait être un peu, qui aurait dû être la matrice, et qui a été, par moments, surproduite par Gaëtan Roussel, et après, ça pose énormément de questions sur légitimité ou pas de ces chansons. Bien sûr, elles ont été travaillées, on va dire, par la personne probablement la plus apte à le faire. Elle l'a fait très bien. Mais c'est drôle, parce que je disais, les gens disaient, oui, s'il les a pas enregistrées, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Mais on sait bien que construire un album, déjà l'artiste est rarement le plus lucide sur ce qui va bien sur un album. Et on peut prendre juste un exemple, tout le monde le connaît, Blind Willie McTell de Bob Dylan, qui a été quand même écarté au moment où il pondait les mauvais albums des années 80, et on découvre qu'il laissait de côté des morceaux bien meilleurs. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, parce que ce débat-là m'amuse un peu, comme si, une fois que c'est fini, ces morceaux ont été enregistrés, ils sont là. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, Arnaud, au début, c'est, vous êtes de toute façon des contouches à Bachung. Et après, donc, tout repose sur, le rapport qu'on a à Bachung et sa musique. Moi, elle est moins forte que vous, d'évidence. Mais du coup, cet album, effectivement, il me touche. Je suis pas choqué du tout. Je trouve même qu'il est assez, oui, il y a quelque chose de, je me sens plus proche de lui. Voilà. Il a été tellement idolâtré, pour un mot dont on a parlé tout à l'heure, qu'il y avait un moment, moi, ça m'écartait, d'ailleurs, oui. Et là, je trouve qu'il y a des, oui, on le retrouve en interprète. Et effectivement, c'est peut-être l'album où il y a le plus de signatures. Et là, on trouve effectivement sa griffe. On sait que chaque fois qu'il travaille sur un morceau, on se disait toujours, mais finalement, Bachung, il n'a jamais écrit une ligne de sa vie. Et pourtant, paradoxalement, presque tout ce qu'il faisait avait été non seulement validé par lui, mais toujours amendé par lui pour que ça lui appartienne. Et c'était le propre de Bachung, c'était ça. Il y avait un énorme travail en amont, même avec quelqu'un comme Manset, quoi. Pourtant.
Plusieurs choses, peut-être. Oui, pardon, ouais. Hugo.
Non, parce que je pensais à autre chose, mais allez-y.
Oui.
Non,
mais il y a plusieurs choses. Enfin, comme vous, je crois, quelque chose qui est d'une cohérence, cet album, ce qui est quand même vraiment, vraiment étonnant. Ça, c'est vraiment la première et c'est une évidence. Citer quand même aussi Armand Méliès, citer Joseph Danvers, qui sont quand même aussi, qui ont un apport important. Moi, j'étais très ému quand Immortel a été diffusé en amont du disque, parce que bon, ça rejoint, en plus, c'est Dominica, une autre de mes idoles. Donc, mais je trouve que ce morceau lui va tellement bien, Alain Bachung. On sait que Dominica l'a enregistré après que Bachung l'ait écarté, mais je suis heureux que cette version existe aujourd'hui, mais surtout, la proximité, moi, à propos de concerts d'idoles, moi, les deux meilleurs concerts, enfin, l'un c'était une courte prestation, mais l'autre c'était un véritable concert que j'ai vu d'Alain Bachung, c'était en guitare-voix. Parce que je trouve que là, il y a quelque chose de la puissance à la fois, enfin, la puissance émotionnelle d'interprétation de sa voix qui était pour moi assez unique. Et ce disque-là, comme il est bâti au départ sur des guitares-voix, je trouve qu'il y a quelque chose d'une proximité, je crois qu'on a tous ressenti ici, Joseph Gosselin.
Oui, il y a une vraie proximité, même d'ailleurs dans ce premier morceau, Immortel, quand on l'écoute bien, quand on écoute sa façon de le chanter et de prononcer les mots, il y a quelque chose de très touchant, notamment parce que il passe, c'est vraiment des détails, mais à un moment il chante, il dit nous sommes immortels, et à un autre moment il dit nous sommes immortels. Il y a des moments où il fait la liaison, des moments où il ne fait pas la liaison. Et c'est rien que ça, ces petits détails, ce petit dérapage, fait qu'on a vraiment l'impression d'être avec lui, qu'on se dit oui, il y a quelque chose de qu'il ne fallait pas laisser passer.
Sophie Rosemont.
C'était pas le bon moment peut-être pour ces textes d'être sur Bleu Pétrole. Et ils auraient d'ailleurs sans doute pas été servis par la réalisation. Et parce que les textes sont quand même pas anodins.
Pas vraiment.
Là, autant la conclusion qu'on vient d'entendre comme qu'immortel. Et je crois que ça aurait peut-être été trop de les enregistrer, de les sortir à ce moment-là. C'était quand même quelqu'un de très très pudique, malgré son charisme, son swing, tout ce côté rocker dont il se fichait éperdument, mais voilà, tout ce qu'on peut attribuer autour de Bachung, il y avait quand même énormément de pudeur, et c'est peut-être ça qu'il a retenu. Mais s'il les a gardés, et s'il a dit à Chloé Mons de s'en occuper, je cite... C'est que oui, il fallait s'en occuper. Et là, on peut vraiment remercier Chloé Mons et Edith Fombena parce que c'est un de ses plus beaux disques.
Hugo, que savait-il ?
En entendant ce que dit Sophie, c'est drôle. On voit, alors peut-être que Saint-Plan savait, pour l'époque, ça se faisait pas encore, à un moment où maintenant ne sortent quasiment que des disques crépusculaires. Ouais. Ils chantent la mort. Ouais. À l'approche de la mort, ça va de Cohen à Bowie à presque tous les albums. Soit maintenant ils sont morts, soit ils ont été posthumes. Donc c'est assez drôle qu'à l'époque, c'est comme si on pouvait pas le faire et qu'on les gardait de côté. Mais autre chose, ce qui est intéressant avec ce disque, c'est ça se rapproche pour tous ceux. Alors moi, j'ai toujours été, probablement beaucoup plus fanatique de Johnny Cash sur toute sa carrière, et à l'époque agacé par les gens qui disaient non, c'est les seuls bons disques, c'est les 5 ou 6 faits avec Rick Rubin tout seul. Il y faisait enregistrer, il a enregistré des centaines jusqu'à ce qu'il meure quasiment, quoi, dans le studio, et qui sortent, il y en a qui sont sortis avant, certains après, et on est tous, c'est des disques forcément émouvant, et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que Fombena s'est un peu mis dans cet esprit-là, comme si elle était devenue une sorte de Rick Rubin avec des bandes effectivement enregistrées il y a 10 ans, mais en gros, imaginons que Bachung est là, et on va là. Est-ce que ces 10 sortiront de son vivant ou pas? Et je trouve que c'est là où c'est toute la finesse qu'elle a fait. Les 10, c'est pas parfait. C'est comme toutes ces bandes de Johnny Cash où il y a des reprises. Il y en a beaucoup qui annonçaient la fin proche et tout. Mais c'est des disques, effectivement, pour peu qu'on ait un rapport un peu personnel, passionnel à l'artiste, on les entend, quoi. Voilà, avec tout ce que ça veut dire, quoi. Dans toute leur fragilité et vulnérabilité. Voilà, c'est ça.
Joseph Gosse, pour finir.
Il y a effectivement le niveau où les chansons sont vraiment de bonnes chansons. Immortel, ça vous reste dans la tête, etc. Et après, il y a aussi le niveau du rapport à celui qui écoute. C'est-à-dire, finalement, quand on l'écoute, c'est comme si le disque nous regardait et nous demandait qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes face à cet homme-là qui n'est plus là, mais qui d'un coup nous chante des chansons qui parlent directement de sa mort. Et ça c'est vraiment touchant.
En amont d'Alain Bachung, à découvrir, donc c'est sur Barclay, cet album réalisé par Edith Fombena. À suivre dans la dispute, Yon de Bill Ryder Jones, le coup de cœur de Joseph Gosselin et bientôt la prononciation du nom de l'ensemble de Midori Takada. Et puis il y aura bien sûr le petit salon de Lucille Como.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute musique avec le nouvel album donc de Bill Ryder Jones, l'ancien guitariste de Coral, qui poursuit depuis une dizaine d'années une carrière en solo. Christophe Comte, ici même, en 2013, avait consacré un coup de cœur à l'un de ses albums. On n'avait pas eu l'occasion de nous disputer encore sur le travail de l'auteur, compositeur, interprète, Yone. Titre de cet album propose 10 plages enregistrées par le musicien chez lui, avec quelques voix invitées. On écoute Recover. Trahi par mon informatique défectueuse. Il me semblait bien qu'on avait déjà parlé de Bill Ryder Jones et Hugo Cassavetti. Vous m'avez soufflé qu'on a parlé de tous ces albums quasiment, mais ça date un petit peu. Bon, If, c'était il y a très longtemps, 7 ans selon Sophie Rosemont. Et le dernier en date, je ne sais plus...
Il y a 3 ouais. ans, où on le voyait enfant dans une baignoire.
2015.
Soyons précis avec Sophie Rosemont, mais voilà, j'oublie, c'est, ma mémoire me joue des tours. Mais quand j'avais regardé les titres des albums, je me suis dit, mais on en a parlé de celui-ci. En fait, on en parle à chaque fois, Hugo Cassavetti.
Ben oui, et c'est d'ailleurs, non, mais c'est intéressant, parce que la cuisine, on le sait, c'est qu'on nous demande de quoi pourrait-on parler. Ouais. Il y a pas énormément de disques, et c'est Joseph qui l'a suggéré. Et c'est vrai que c'est un disque que je n'ai pas suggéré pour deux raisons. D'abord, parce qu'on en avait déjà parlé.
Je pense qu'il m'a demandé à moi.
Et puis, non, mais je vais être, voilà. Et le plus honnête, c'est que justement, c'est un artiste que j'ai toujours défendu, que j'aime beaucoup. Et ce disque-là, et je trouve que les trois premiers avaient vraiment une progression chaque fois, assez nette, et surtout le précédent, où tout à coup, en retournant, en assumant, parce que le premier album était même quasi instrumental, il s'était libéré de The Coral, où il assurait les guitares, ce groupe, et là, il était parti dans un vieux fantasme de faire une musique beaucoup plus presque orchestrale, instrumentale, et en plus, c'est pas un chanteur du tout. Donc c'est surtout pour ça qu'il chantait pas au début, il marmonnait sur quelques morceaux. Le deuxième, il a commencé à chanter, à tisser un peu une sorte de noisy pop, ouais, un peu de shoegaze réinventé, mais intimiste.
Slow shoegaze.
Oui, un peu, oui. Et c'est sur le troisième, sauf que vraiment il a trouvé son langage, mais en retournant, en décidant, en s'ouvrant, en racontant son enfance à Liverpool, juste des petits souvenirs assez mélancoliques, assez tristes, les deuils, les amis qu'on a perdus de vue, tout ce genre de choses, des choses assez anecdotiques, mais profondes.
Pourvu qu'il y ait une écriture.
Et tout ça habillé de ces mélodies qui se ressemblent toutes un peu, avec cette voix qui est assez limitée, mais tout ça fait un disque qui était très très chaud, chaleureux, parce qu'il nous emmenait effectivement dans son passé avec cette musique qui réinventait, mais je trouve avec une émotion, une intensité assez surprenante et qui emportait, je trouve. Le dernier, si au début, du coup pour l'émission, je l'ai réécouté, je le trouve effectivement bien, mais au début, je me dis, il n'avait qu'un défaut, c'est que je trouve qu'il évoluait pas beaucoup par rapport au précédent. On a l'impression que c'est la suite. Déjà, on prend la pochette, le précédent, il était en petit garçon dans sa baignoire en noir et blanc. La seule différence, c'est qu'il est en couleur. Il doit avoir 2 ans de plus et il rigole, oui. C'est ça.
Je sais plus où est la pochette, mais oui, c'est
ça. Mais donc, il tourne autour des mêmes choses. Son Liverpool d'enfance, il y a une chanson pour sa mère, une chanson pour ses ex. Et alors, c'est drôle, c'est un gentil garçon. Il a 35 ans, on a toujours l'impression qu'il en a 14 à peu près. Physiquement, qui regarde ses pieds. Et le morceau qu'on a écouté est un peu atypique parce que c'est le plus acoustique et dépouillé. Le reste, il reprend plutôt ce qui est... Il a laissé tomber ses grandes orchestrations, il y en a quelques-uns plus subtils. Il est surtout, c'est ça qui est intéressant, il a ce murmure assez prenant et surtout son jeu de guitare qui arrive en lentement, une sorte de c'est pas de violence, mais de bruitisme sourd qui arrive, qui monte en puissance. Les morceaux sont tous un peu similaire, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à ce disque, il y a une certaine monotonie, mais assez plaisante par ailleurs. Mais en fait, à quoi ça me fait penser, et là ça va vous faire hurler ou toucher,
ça va me faire toucher.
Il y a un morceau, je crois que ça va vous toucher, ouais. C'est le morceau Mother sur sa mère, en l'écoutant, au bout de 3 fois, je me dis voilà exactement à quoi ça me fait penser, sans la voix bien sûr, c'est quand Robert Smith a fait Pictures of You. Et il y a quelque chose dans le tempo, cette manière comme ça, de prendre son temps lentement, de tourner autour d'émotions, avec ses guitares, ce rythme un peu moitié indolent mais assez prenant. Et tout l'album ressemble un peu à ça. Je trouve que Robert Smith, depuis Pictures of You, a refait ce morceau plein de fois. Et c'est toujours avec bonheur, généralement. Et lui, il y a un peu ça sur tout l'album, quoi. C'est une variante à peine différente sur chaque morceau, à part celui qu'on vient d'écouter, qui est assez différent des autres. Et c'est ce qui fait le charme de ce disque et peut-être ses limites par rapport au précédent, où je trouve qu'il était arrivé à... Il avait affiné son style. Là, il l'explore à nouveau, sans forcément réinventer de neuf.
Alors, par respect pour Jordan Fuentes, qui est au manège, je n'ai pas hurlé. Mais j'aurais pu plutôt que me toucher.
Mais j'ai cru Joseph que tu aurais, ça nous arrive aussi.
Joseph Gosnar. Non, non plus. Alors c'est vous qui avez proposé ce disque.
Oui, j'ai proposé
Bill Ryder Jones.
J'ai proposé ce disque parce que j'avais l'impression qu'on n'en avait jamais parlé.
Ah ben, vous aussi.
Et voilà.
Et surtout. C'est un surtout de Liverpool. On va commenter.
Et surtout, en fait, Bill Ryder Jones, c'est quelqu'un dont j'ai entendu la première fois le nom dans une interview que je faisais avec Stephen Pastel, des Pastels, qui m'avait cité ce nom-là. Et depuis, je tourne un peu autour, mais sans jamais réussir à vraiment rentrer dans l'univers ou dans les disques. Et j'ai plutôt réussi à rentrer dans cet album-là, sans doute parce que j'aime bien effectivement moi ce côté très lent, un peu répétitif des constructions, et surtout que j'ai entendu beaucoup de sonorités effectivement un peu noisy, mais surtout très très basse, très je ne sais pas, comme ça, très calfeutré. Et j'ai l'impression d'entendre le disque effectivement noisy ou shoegaze de quelqu'un qui s'est mis à écouter très récemment du doom metal et qui du coup fait ça un peu en chambre, mais avec une grande tristesse, une grande mélancolie. Et bon, donc j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, ça m'a renvoyé du point de vue des références, pas tant à Cure, mais plutôt à Pavement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent un peu, notamment dans le jeu de guitare ou dans certaines évolutions, un peu au tout premier Pavement. Et puis finalement, j'étais très très touché, encore une fois, par des morceaux vers la fin, un morceau notamment qui s'appelle John, où il parle d'un John qui a disparu, où le morceau commence par John, je porte pratiquement tous les jours ce t-shirt que tu m'as laissé, comme ça j'ai l'impression d'être encore avec toi, etc., etc. Et cette espèce de confession assez simple, assez banale, ça m'a touché. Je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon disque, et c'est surtout un disque. Comment vous dire, plus je vieillis et moins j'ai d'affinité avec la pop, mais ce disque-là me touche vraiment et il me donne envie de réécouter des choses et de revenir à cette forme de chanson que je pensais un peu passée, mais qui là trouve une forme d'acuité qui me plaît bien.
Alors, Sophie Rosemont, touchée? C'est le mot, hein, visiblement.
Non. en tout cas, je sais pourquoi Joseph Gosse n'a aimé John, parce que John, c'est quand même complètement Velvet Underground. Il y a quand même une...
Et puis, il porte son pull.
Joseph a un très beau pull pour lui, d'ailleurs. Non, mais c'est quand j'écoutais ce titre, je me dis mon Dieu, c'est vraiment très très. Enfin, il a bien retenu la recette magique et toxique du Velvet Underground sur ce titre uniquement d'ailleurs. Le reste pas vraiment. Moi, je rejoins mes chers camarades sur tout ce qu'ils ont dit, même si je trouve que le fardeau que porte Bill Ryder Jones est tellement lourd qu'il nous en donne un peu. Alors, il y a un moment donné, l'album en entier, sur sa continuité, et je ne pensais pas dire ça un jour, mais je sais pas si je pourrais vraiment le conseiller. Parce que parfois, on frôle un peu le pathos, d'autant qu'effectivement, la figure maternelle, qui est très prégnante ici, l'était déjà sur celui d'avant. Et quand j'ai vu justement cette pochette, donc les petits garçons blonds, yeux bleus, en train de sourire avec sa mère derrière lui, en arrière-plan, j'ai pensé à un autre album dont la thématique n'est pas si éloignée, mais qui est génialement réussi, c'est Carrie Anne Lowell de Sujan Stevens, qui n'a rien à voir musicalement. Mais hormis le fait que ça n'a rien à voir musicalement...
Alors ça, je me souviens qu'on en a parlé dans la musique.
Sujan Stevens est absolument génial. C'est surtout qu'il... Tout simplement, l'insoutenable légèreté de l'être, c'est quelque chose que maîtrise très bien Sujan Stevens, c'est pas du tout Bill Ryder Jones. Donc oui, il y a d'assez belles chansons, mais cette façon de... La voix, évidemment, différente.
La voix n'aide pas, en plus.
La voix, quand... Là, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est quand même... Bon, on se sent pas bien non plus. Alors lui, apparemment, ça lui fait beaucoup de bien d'écouter, d'écrire ses chansons. Je ne suis pas sûre que ça lui fasse du bien de les jouer en live, en revanche. Mais nous, ça nous fait pas forcément du bien non plus de les écouter. Maintenant, je l'aurais écouté encore ce matin. Et là, j'ai découvert de telle ou telle chanson une mélodie qui me plaisait. Donc je pense que, voilà, c'est à prendre avec parcimonie. Mais c'est quand même assez plombant. Même si le rock des années 90 a été assez bien digéré à sa manière. Et qu'on entend même aussi son amour pour Dvorak, son amour même pour des groupes anglais comme The Verve. Et que ça reste un album assez joli, qui cite, hein, d'ailleurs. Il dit que pour la guitare, le guitariste de The Verve l'a beaucoup influencé, notamment sur cet album. Et après, j'ai réécouté et je me suis dit, en effet...
Bon, oui, enfin, bon. Peut-être. Hugo Casavetti.
Oui, juste finir. Par rapport à dire, voilà, la tristesse, la mélancolie, ce qui le sauve. Quand on écoute bien et qu'on lit un peu les textes ou qu'on les entend, faut déjà, bon, on peut s'arrêter sur le titre de l'album. C'est-à-dire, c'est aussi lui reconnaître, derrière tout ça, une certaine forme, peut-être pas d'autodérision, mais d'humour. Ouais. Parce que dans les textes, il y a des choses assez, assez drôles, où il fait des jeux de mots, des trucs comme ça, d'ironie. Et il faut dire, l'album s'appelle, c'est le nom de son studio, Yawn, qui veut dire juste bâillement. Comme lui-même anticipait ça, que je joue à être ce petit garçon un peu dépressif, jusqu'où on peut aller dans ce genre de musique, tout en, finalement, ça devient une forme, c'est assez fort, quoi. Tout en étant le plus sincère possible, ça touche à une forme assez étonnante de second degré.
C'est un vieux petit garçon, en fait, je trouve. C'est un vieux petit garçon.
Moi, je voudrais juste défendre sa voix, puisqu'on avait dit plutôt du mal, et alors que moi, j'aime beaucoup sa voix, et c'est aussi ce qui me permet de rentrer dans les chansons.
Ah, ouais. Donc, voilà. Bon, je voudrais pas qu'on ait l'air de trop soutenir Liverpool devant Lucille Como, avant le match de demain soir. On parlait de Yawn, de Bill Ryder Jones, qui vient de sortir chez Domino. C'est le moment que nous attendions tous, c'est le moment où Joseph Gosne va prononcer le nom de son coup de cœur avant qu'on entende un petit extrait.
Alors, je crois que ça se prononce Mkwadju.
Pas mal.
Mkwaju, Mkwadju Ensemble, c'est un groupe japonais. Qui a sorti deux albums en 1981, et ces deux albums viennent d'être édités. Il y en a un qui est sorti il y a quelques mois, et celui qui s'appelle Mkwadju est sorti tout récemment.
Et à quoi ça ressemble? Un petit extrait quand même.
Bien sûr.
Et vous pouvez poursuivre, Joseph Gosne.
Tout à fait, je dirais déjà Mkwadju Ensemble.
Je dirais
juste déjà que les 30 secondes que nous avons écoutées ne rendent pas hommage à la force et la puissance de ces morceaux.
C'est un peu la couleur.
Un tout petit peu la couleur qui évoque, on le disait hors antenne, Mike Oldfield, mais surtout Steve Reich et un peu de musique africaine. Mkwadju Ensemble, c'est un groupe dans lequel on retrouve Midori Takada, qui est une percussionniste japonaise dont on a réédité aussi l'année dernière un album qui s'appelle Through the Looking Glass, qui est un album extrêmement recherché, très justement dans la rythmique, mais avec des côtés assez ambiantes, un tout petit peu New Age justement. Midori Takada était un peu retrouvée grâce à ce disque, et elle a beaucoup tourné, et donc depuis on réédite un peu ses autres disques, dont ces deux albums là qui étaient aussi eux un tout petit peu légendaires, notamment celui dont on vient d'entendre un extrait, celui qui a la pochette orange, qui s'appelle simplement Mkwadju. Il est un peu légendaire parce qu'il a été, en fait, tous ces morceaux étaient composés par Joe Hisaishi. Joe Hisaishi étant, c'était son premier album, et Joe Hisaishi ensuite fera carrière, notamment dans les bandes originales. Il a composé les musiques de Takeshi, des films de Takeshi Kitano. Donc, voilà, il y a un côté assez, un peu ambiante, oui, atmosphérique, parfois un peu pulsé. Le premier morceau de cet album-là a quelque chose de presque un peu techno, moi qui me plaît bien, qui me parle immédiatement. Mais surtout, ça fait partie en ce moment d'un petit mouvement de redécouverte de tout ce qui s'est fait au Japon au début des années 80. Il y a notamment une compilation qui sort chez Light in the Attic, je crois en décembre, en janvier, qui explore un peu cette musique-là. Et par ailleurs, le label qui vient de sortir ce disque explore aussi toute cette musique, puisque c'est eux qui avaient ressorti Midori Takada. Le label, c'est un label suisse qui s'appelle We Release Whatever the Fuck We Want Records.
Oh, vous avez triché parce qu'eux ils mettent que les
WR, TF, voilà. W, quelque chose comme ça. Donc c'est un label par ailleurs à suivre, puisque comme l'indique leur nom, ils sortent vraiment à peu près tout ce qu'ils veulent, et ils ont notamment ressorti des BO de films, des BO de François de Roubaix, des BO de films de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, c'est eux qui ont ressorti les BO récemment. Donc voilà, c'est un label à suivre et c'est un groupe à écouter.
Vous redonnez le titre et le label pour désannoncer,
tout
Joseph
à fait. L'album Mkwadju par le Mkwadju Ensemble sur We Release Whatever the Fuck We Want Records.
Vous avez tous reconnu cette magnifique entrée dans le petit salon de Lucille Como, et ce soir vous avez deux amours.
Oui, j'ai deux amours, c'est Lauryn Hill et Beyoncé. En fait, bon, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce sont les deux gros concerts que j'ai vus dans ma vie. Deux concerts dans des grands stades. Deux concerts dont on prend fébrilement les places très à l'avance en priant pour que la page s'actualise correctement. Deux concerts pour lesquels j'ai aussi dépensé une somme assez conséquente. Deux événements, parce que Beyoncé et Lauryn Hill, je les aime. Voilà. Alors Beyoncé, c'était en 2013 à Brooklyn, c'était éclatant, plein de paillettes, un immense show, avec changement de costume à chaque titre, chorégraphie au cordeau, envol de ladite Beyoncé par-dessus la fosse, les bons titres, y compris certaines de ses anciennes chansons avec les Destiny's Childs, et puis sa voix claire, triomphante, vocalise au top. Bref, clairement, on en avait pour son argent. Alors Lauryn Hill, c'était autre chose, les journaux se sont largement fait écho de sa prestation au stade Accor Hotel Arena de Bercy la semaine dernière, et encore, ce n'est rien, je crois, en proportion avec les gorges chaudes que provoque chacun de ses concerts aux États-Unis. Il faut dire que Miss Lauryn Hill est systématiquement en retard quand elle n'est pas en plus agressive et extrêmement réticente à l'exercice même de la prestation en public. Lauryn Hill, grande chanteuse noire américaine, a désormais plus de 40 ans. On la connaît surtout comme membre des Fugees et elle a commis en 1998 un très grand album mythique pour toute une génération dont je suis, The Miseducation of Lauryn Hill, du rhythm and blues à son meilleur. On célèbre donc cette année les 20 ans de cet album et la chanteuse est donc partie en tournée pour les fêter et livrer sur scène quelques-uns des tubes qui le composent. Quelques, c'est le mot, car mardi dernier à Bercy, Lauryn Hill est arrivée sur scène un peu plus de 2h30 après l'heure prévue, a chanté environ 45 minutes avant que l'équipe du stade, dont je rappelle quand même qu'il a désormais un nom de chaîne d'hôtellerie, décide tout simplement de couper son micro alors qu'elle prévoyait de faire un dernier morceau, c'était l'heure de rendre les clés. Alors Twitter et la presse le lendemain n'avaient point de mots assez durs pour décrire l'impatience du stade, exaspéré de devoir attendre, qui a en effet sifflé les multiples artistes envoyés au casse-pipe d'une énième première partie pour faire durer. Et Lauryn Hill elle-même, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas affolé la foule. On parlait également de la décision de Bercy, pas le ministère, je me rends compte en lisant que ça peut porter à confusion, mais le stade d'avoir coupé le micro, mais finalement aux yeux et aux oreilles de beaucoup, ce n'était pas ça le plus scandaleux. D'ailleurs, tout le monde est finalement sorti assez sagement lorsque les lumières se sont brutalement rallumées et qu'a résonné en lieu et place de la voix rugueuse de Lauryn Hill le doux message « Veuillez regagner les sorties, s'il vous plaît ».
Mets-vous là-dedans le...
Ah, je vous remercie de poser la question, Arnaud. Eh bien, ce fut une grande expérience.
C'était pas mal. C'est une première pour moi ouais. Aussi.
Grande expérience paradoxale. De la voir sur scène dans cet état de fragilité, à la fois causé par les réactions de colère qu'elle provoquait et qu'elle ne pouvait clairement pas ignorer, mais aussi parce que 20 ans après, Lauryn Hill a vieilli, comme moi, et que cet album, qui est une sorte de carte du tendre soul, un parcours dans les divers émois d'une adolescente, résonnait étrangement dans cet immense stade hostile et dans la voix éraillée et désormais assez peu mélodieuse de la chanteuse. Et finalement, je me suis dit que je me rappellerais probablement davantage ce concert qualifié par tous de fiasco que celui parfaitement huilé de Beyoncé, d'où mon appel à vos souvenirs, à vous trois, à vous quatre, vous qui, j'imagine, avez bien plus que moi d'expérience en la matière. Est-ce que le concert d'une idole n'est pas toujours raté?
Alors, je vois Sophie, heureusement qu'il y avait la main, mais j'aurai quelques rectificatifs à apporter. À votre...
Alors, juste une petite précision avant les rectificatifs d'Arnaud Laporte, c'est que si je n'étais pas au concert de Lauryn Hill, mais si on veut écouter l'album tel qu'il était, c'est impossible, étant que légalement, elle ne peut pas le jouer avec les arrangements de l'album, parce que, bon, une longue histoire de crédit donné aux musiciens de The Miseducation, qui est effectivement un album dont les arrangements sont somptueux, mais qu'elle n'a plus le droit légalement de reproduire sur scène. D'où les arrangements parfois un peu improbables, qui peuvent chatouiller l'oreille de certains.
Ah, d'accord.
Et dans la fosse, alors j'ai plusieurs amis, collègues qui étaient à ce concert, et il faut savoir que dans la fosse, apparemment, l'ambiance était quand même assez bonne, et les gens étaient assez satisfaits, d'après ce qu'on l'a dit. Mais je pense qu'Arnaud Laporte a des rectifications avant qu'on parle de nos souvenirs.
D'abord, c'était 54 minutes, pas 45. Vous savez, comme je suis obsédé par l'heure où ça commence, l'heure où ça finit, c'est l'habitude du théâtre, et je fais pareil au concert, ce qui est normal. Et alors, vous dites, voix éraillée et désormais peu mélodieuse de la chanteuse.
Mais c'est pas un défaut. C'est vrai qu'elle a une voix éraillée.
Mais pas du tout.
Elle a toujours une voix un petit peu.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait avant que ça commence pendant 2h30?
Ça veut juste dire qu'elle ne chante presque plus. Et de fait, elle a beaucoup rappé, elle a beaucoup dit ses chansons. Je ne dis pas que c'est un mal, moi je trouve ça magnifique fait comme ça.
Non, mais
elle a assez peu chanté.
Je pense que vous auriez été fatigué à ce moment-là de la soirée, parce que j'ai entendu une très belle voix. Mais il faudrait des enregistrements pour nous départager, donc ce ne sera pas le cas ce soir. Mais revenir à la question finale, est-ce que le concert, je lis partie de votre épaule, non j'ai le texte aussi, parce que j'avais une magnifique relance.
D'une idole n'est pas toujours ratée.
Alors, souvenir, Hugo Cassavetti.
Bah, c'est-à-dire que j'ai un problème avec la définition du mot idole, quoi. C'est que je n'ai pas d'idole, j'en ai jamais eu. Bon. Et qu'à partir du moment où on a une idole, par définition, on n'est pas déçu. je pourrais donner le seul exemple probablement de groupe que qui était le plus important pour moi et que j'attendais. Et donc à l'époque, on y va l'après-midi. C'était les Kings, quoi. C'était il y a très longtemps. Et non, j'ai pas été déçu. D'abord parce que les seules personnes, voilà, les seules idoles que j'ai toujours eues, c'est des morts. Comme ça, ils vous déçoivent jamais.
C'est une solution.
Et mais c'est vrai. Ou un groupe comme les Kings, et si je dis ça, on pourrait mettre des gens de Lou Reed, d'Ion Mason, on sait et on les aime, pourquoi on les aime. C'est pour ça que je suis un peu surpris dans le cas de, pour venir à Lauryn Hill. C'est des gens dont justement on sait si on attend tout, c'est tout sauf un spectacle à Beyoncé huilé et tout. Dans ce cas-là, on est fan de Coldplay ou de genre, non, mais on sait qu'on va avoir, merci, Paris, vous êtes les plus beaux. On sait qu'on peut s'attendre à tout et que le miracle, c'est plutôt quand ça se passe bien. Et je dis ça juste pour Lauryn Hill, c'est que moi, j'étais même sidéré qu'elle fasse de Bercy. Ça fait 20 ans qu'elle est imprévisible, elle marche sur la tête, ingérable, qu'elle a, voilà, depuis cet album, elle a quand même presque rien fait d'intéressant, et on sait bien qu'elle en est incapable, donc c'est plutôt miraculeux. C'est comme les gens qui seraient allés voir Amy Winehouse, ou même des, voilà, prendre les extrêmes, Guns N' Roses, pour les gens qui aimaient ça, on savait qu'ils arrivaient 3 heures en retard, et les gens, ils vont pour ça, quoi. Donc c'est juste ça qui me surprend pour revenir à des,
faut avoir des
exemples de concerts.
Ça,
alors je veux en prendre une, quelqu'un. Voilà, je trouve qu'un très bon exemple de souvenir, c'est Nina Simone. On savait qu'elle était comme ça, quoi. On allait, moi je l'ai vue, je sais plus, il y a 25 ans, à l'Olympia, c'était, et on savait que là-bas, ça ne retire rien au talent, à l'immense talent qu'elle avait, mais on savait qu'en y allant, on avait une chance sur deux qu'elle ne vienne pas ou qu'elle arrive 3 heures en retard. C'était le cas, et je me souviens toujours pourquoi c'est un souvenir, c'est que, donc ça montait, ça grondait et tout, et à la fin, il y a un type qui est monté sur scène au bout d'une heure, qui a pris le micro, qui a dit, maintenant, il y en a marre, je propose qu'on parte tous, qu'on siffle, elle se fout de nous depuis trop longtemps et tout. Et pendant qu'il haranguait la foule, elle est arrivée lentement derrière lui. Alors, vous savez, là, elle s'est tenue comme ça, juste derrière lui.
Les bras croisés,
un peu tout le monde, personne, c'est un peu comme dans Guignol, le flic est derrière toi. Mais continue, hey, on vous emmerde, allez, tous, vivacieux. Puis genre, personne. Et alors, il se retourne, il s'est liquéfié. Et puis juste, elle l'a poussé, elle a rien dit, et puis elle s'est assise au piano, elle a fait un concert super. Donc, mais des... Voilà, il y a tellement d'exemples comme ça, mais c'est qu'est-ce qu'on attend d'un concert et pourquoi alors, on choisit. Et on pourrait parler de Dylan, on y va et on sait que le miracle quand c'est bien. Mais on n'a surtout pas envie que ce soit le même concert chaque fois.
Sophie Rosemont.
C'est vrai que moi j'ai eu l'avantage, tout le monde connaît pardon mon amour pour Jim Morrison, qui était mort, hélas. Enfin, est-ce qu'il est vraiment mort dans nos cœurs? Non, mais en tout cas, techniquement mort, suffisamment mort pour pas que je ne puisse le voir en concert. Je me contentais de regarder la VHS du Hollywood Bowl toutes les semaines. Mais Lou Reed, par exemple, c'est un bon exemple d'idoles qui ont déçu. Et ça m'a toujours étonnée quand on va à un concert de Lou Reed, comme on va à un concert de Dylan, mais Lou Reed c'était encore pire, on n'était pas vraiment sûr de l'humeur, on savait pas s'il allait massacrer ou non les morceaux du Violet Underground, qui était quand même un jeu qu'il aimait particulièrement faire. Est-ce qu'il allait engueuler ses musiciens devant nous tous ou pas? Donc c'était un peu la gagnotte. Moi, le dernier concert que j'ai vu de Lou Reed, j'ai payé assez cher ma place, Grand Rex. J'étais un peu dans un côté un peu recueillement. Je sais pas, je sentais peut-être que ça n'allait pas durer très longtemps, et ça a été effectivement un peu un massacre à la tronçonneuse, hormis quelques moments de grâce. Mais je l'ai pris comme c'était, et comme le disait justement Hugo, ce type d'artiste, on peut pas forcément s'attendre à une espèce d'épiphanie merveilleuse d'une heure et demie, il va nous faire des gros bisous. Mais ça peut aussi donner des moments merveilleux, comme le concert de 3 heures de Leonard Cohen, alors que je déteste tout ce qui est... qui est trop long en durée, comme les films. J'aime pas les films trop longs, j'aime pas les concerts trop longs. Eh bien, Leonard Cohen, 3 heures, c'est passé tout seul.
Il y a des exceptions, en effet.
Oui, non, c'est vrai que ça a été un moment merveilleux, et c'est un des rares concerts, avec peut-être celui de Portishead il y a 10 ans, où j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré au concert de Leonard Cohen. Voilà.
Joseph Gosne.
Alors, plusieurs choses. Moi d'abord, effectivement, je n'ai comme Hugo, je n'ai pas d'idole, et un de mes disques préférés d'ailleurs s'appelle Kill Your Idols de Sonic Youth. Donc j'ai plutôt grandi dans cette idée-là, et le seul groupe qui a à un moment pu avoir cette aura-là pour moi, notamment en grandissant, c'était le Velvet, qui n'existait plus depuis Belle Lurette.
Donc c'était réglé.
Et qui en fait s'est reformé à un moment, et j'ai refusé d'aller les voir.
Ah oui.
Parce que ça ne m'intéressait pas de voir sur scène des gens qui ne correspondaient plus à l'époque à laquelle ils avaient fait ces disques-là. Et moi, ça me paraissait totalement aberrant de faire ça. Donc, cet exercice-là ne m'a jamais intéressé. Et moi, ce que j'aime profondément, c'est quand je vois un groupe sur scène, c'est d'être surpris par la découverte. Et s'il faut faire appel à ses souvenirs, moi, un de mes plus grands chocs esthétiques, c'est quand j'ai vu quand j'étais j'étais au lycée quand j'ai vu My Bloody Valentine sur scène au New Morning, et j'en suis resté avec l'oreille sourde pendant plus d'une semaine. Et c'est ce genre de choses que qui m'intéresse, c'est-à-dire la surprise. Et je l'ai encore eu il y a deux soirs. Je suis allé au festival Bébé Mix à Boulogne pour voir quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pan American, et il se trouve que le groupe qui jouait juste avant, que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Fax, m'a littéralement renversé. Donc c'est plutôt ça que j'aime bien. Je n'ai pas du tout ce sentiment d'aller voir quelqu'un que j'adule, parce que en fait moi ce que j'aime bien c'est écouter les disques, et puis les disques qui passent et ceux qui remplacent les autres. Donc c'est une chose. La deuxième chose, par rapport à cet événement là très précisément, c'est que je pense aussi que le rapport au concert a beaucoup changé, et que les gens aujourd'hui vont aussi voir des concerts pour pouvoir les commenter, les filmer. Ça on le voit depuis 10 ans, hein, tout le monde. Il y a 15 ans les gens n'avaient pas de portable et ne filmaient pas. Aujourd'hui les gens sont là pour montrer qu'ils sont quelque part et assister à quelque chose. Et si effectivement un artiste est en retard, ben en fait on en profite pour raconter sur Twitter qu'on est pas bien ou qu'on gueule, etc. Donc ça pour moi ça a un peu changé la donne, parce qu'effectivement avant ça faisait partie ce que racontait Hugo sur Nina Simone, mais en fait ça faisait partie du jeu, en fait. Ça faisait partie de ça, d'aller dans un truc, dans un concert, d'être surpris, d'être peut-être dans une fosse et de se prendre des coups, de voir qu'il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui j'ai l'impression que le fait que les réseaux sociaux sont aussi là pour prendre en compte immédiatement de ce qui se passe, ça fait que les choses sont un tout petit peu plus aseptisées.
Je parle même pas de l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Et tout d'un coup, je me souviens de la première fois que j'ai vu Alain Bachung, c'était en 1980. Il avait 2h30 de retard.
Bah oui.
Et c'était sublime. Lucille Comeau.
Mais non, juste à ce propos, je me faisais aussi la réflexion que dans un lieu comme Bercy, hein, comme lieu de concert, je pense que toute surprise ne peut être que sous cette forme de ratage. Parce que quand ça réussit, ça veut dire que ça rentre dans la mécanique d'un lieu qui est totalement inhumain.
Oui, il y a des groupes pour qui ça marche, des pêches
de rage. Ça marche pour Beyoncé aussi. Mais ça marche pas, en effet, pour Laurine. Il y a de toute façon un problème de.
Cure, j'ai vu des cures à Bercy magnifiques.
À tous les concerts de Peter Doherty, il y avait 2h30 en retard, personne n'a jamais l'insulté. Maintenant, ça n'a jamais été à Bercy.
Tout le monde le retrouve dans le bar du coin.
Non, mais trois petites réflexions. Déjà, il y a cette expression qui est quand même très intéressante, qui est toujours celle de en avoir pour son argent. Qu'est-ce qu'on veut pour son argent, d'abord? Et on a l'impression maintenant, il y a un contrat, ils doivent me donner ça, alors que par essence, un artiste, qu'est-ce qu'il a à me donner? Mais c'est vrai qu'il y a deux choses pour reprendre les exemples. Je prends par exemple les Kings Group, du coup, qui dont j'étais fan, que j'ai vu chaque fois, plein de fois. Il y a toujours un moment. Le danger de gens qu'on aime, qu'est-ce qui est affreux, c'est quand un groupe commence à refaire les mêmes choses tout le temps, les mêmes blagues, les mêmes trucs.
Non, pas envie de voir la même chose, ni d'avoir le disque, ni d'avoir
le
même ban.
Par rapport à ce qu'on disait, que ce soit Nina Simone, où je pense à un groupe dont il est mort maintenant, The Fall, très fan, que j'ai vu 5-6 fois, mais la fois où c'était bien, c'était tellement exceptionnel, justement, et on se dit c'est d'autant plus rare parce que de temps en temps ça arrive. Alors apparemment, Laurent Hill, de temps en temps, donne des bons concerts. Il verrait même le lendemain c'était un concert normal. Oui. Mais. Je veux dire, alors que voilà, je rigole sur Coldplay parce que je m'en fous, mais je pense que Coldplay donne le même concert tous les soirs depuis 30 ans, non?
Oui, depuis 100 ans. Lucille Comeau.
Sur la question du contrat, c'est intéressant parce que de fait, oui, les spectateurs se sentent dans un rapport de contrat avec l'artiste, mais en revanche, pas avec la salle. Parce que moi, j'ai quand même été surprise, même si en effet, les messages du stade ont été un peu hués. Je me suis dit, mais là, c'est pas possible, ça va être la révolution. Enfin, on coupe pas le micro de Laurine Hill quand même. Et de fait, il y a eu quand même une forme de docilité à la sortie. Qui m'a vachement
parce
surprise.
Parce qu'il fait froid, parce qu'il est tard et qu'il faut avoir le métro et pas le dernier dans le wagon. Enfin, il y a quand même aussi 15 000 personnes à faire sortir d'un lieu.
En effet, c'est un contrat, quoi, et qu'on supporte l'institution, mais pas l'artiste.
Oui. Pour info, c'est quand même la prod qui décide l'heure de la fin du set avec la salle, et c'est pas Bercy qui coupe le micro, mais la fin prévue à 23h30, ce que c'est très bien Laurine Hill quand elle monte sur scène avec 2h30 de retard.
Et héros reformé comme quoi ça parfois, j'ai vu, ça vous fait rire, mais le concert de Black Sabbath, de leur tournée d'adieu il y a 3 ans à Bercy, était exceptionnel. Et tous les gens là, c'est marrant, quoi. Et il peut y avoir 17 000 personnes qui n'en reviennent pas parce qu'on se dit c'est pas possible que ce soit bien, quoi.
Mais c'était tout de même aussi, c'était pas mal, il y a 6 ou 7 ans.
C'est autre chose. Moi j'ai rarement vu des choses dans des grandes salles, mais par exemple, le jour où j'ai vu Radiohead à Bercy, ce jour-là, j'ai compris le groupe autrement. Donc, le contrat dépend aussi de l'artiste.
Je me souviens d'un énorme ratage, mais son coutumier, c'était Massive Attack à Bercy. Un des pires concerts que j'ai vu de ma vie. Mais ils sont connus pour
Massive,
ça.
On y va quand même. On y retournera.
C'est comme ça. Bon, le débat peut continuer. On continuera dans le couloir à l'issue de cette émission.
Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec notre idole, Sarah Dur, qui tout d'abord nous rappelle la question du jeu d'hier soir et nous donne sa réponse, Sarah.
La question était: dans quel département français trouve-t-on la fondation Bernard Venet ?
Le Var, non ?
Le Var.
On fait gagner ce soir des invitations pour découvrir le musée de la Romanité à Nîmes qui se trouve dans le Gard. C'est la question que vous allez poser ou pas ?
Non. À quel architecte doit-on le musée de la Romanité à Nîmes ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Sandra Adoncourt, Anaël Pigeat et Frédéric Bonnet à notre affiche Michael Jackson on the Wall, l'exposition du Grand Palais. L'exposition de Shimabuku au Crédac à Ivry, celle Ossip Zadkine, l'instinct et la matière au musée Zadkine. Et puis un coup de cœur d'Anaël Pigeat pour un beau et grand livre consacré à Charles et Marie-Laure de Noailles, un livre d'Alexandre Mar et Stéphanie Boudin-Lestienne.